France Bleu Paris, découverte. Laurent Petit-Guillaume.
Oui, merci d'avoir choisi France Bleu Paris Découverte, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité des spectacles et des événements sur Paris et la région parisienne. Aujourd'hui, on va vous donner envie, si c'est pas déjà fait, de vivre une expérience vraiment extraordinaire, extraordinaire. Découvrir le monde marin et ses merveilles sans bouger d'Île-de-France, tout en restant en plein cœur de Paris, dans les jardins du Trocadéro finalement. Autrement dit, on va vous inviter à découvrir l'aquarium de Paris. Et pour en savoir plus sur ce lieu, sur ses événements, ses particularités, ses coulisses et son histoire, nous sommes avec le président de l'Aquarium de Paris, monsieur Alexis Povilevitch. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Laurent, merci.
Alors, en quoi se distingue l'Aquarium de Paris? Pour quelles raisons peut-on dire qu'il est presque unique au monde? Quelles sont les différentes façons de le visiter? Et qui a eu l'idée d'installer un Aquarium de Paris sur la colline du Trocadéro? On veut tout savoir. Avant de parler des méduses, j'en ai parlé depuis tout à l'heure, parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire à vivre en ce moment. Avant de parler de Huguet les cafards et de tout ce que propose l'Aquarium de Paris, on va s'intéresser à l'endroit. L'Aquarium de Paris, il existe depuis assez longtemps, finalement. Et je me demandais ce qu'il y avait avant, s'il y avait quelque chose avant dans cet endroit particulier. Ça a démarré comment, cette histoire d'aquarium?
L'aquarium de Paris, on peut dire que c'est le plus ancien aquarium moderne du monde. Il a été créé pour l'exposition coloniale, il a été créé pour une exposition universelle. Ouais. À la place des galeries qui avaient été faites pour extraire de la pierre.
Ouais.
Dans lesquelles, par exemple, une partie de la cavalerie de Napoléon avait été abritée, qui étaient devenus des champignonnières.
Ah oui.
Puisque, évidemment, grâce au crottin, c'était parfaitement indiqué. Donc, en fait, la colline de Chaillot est totalement artificielle.
C'est les champignons de Paris qui sont nés là aussi?
On n'exagérant rien, en tout cas, il devait y en avoir. Et donc, on a eu à Paris le premier aquarium qui était uniquement d'eau douce, mais qui était vraiment une innovation incroyable. C'est là où les tests pour les premiers scaphandres ont été réalisés. Et on a retrouvé une lettre de Jules Verne qui cite sa visite de l'aquarium comme un des points d'inspiration de 20 milieux sous les mers.
Ah, c'est génial ça.
Oui, oui, non, mais c'est assez formidable quand même.
Ah, c'est formidable. Donc c'est resté ouvert longtemps.
Oui, il a été restauré une première fois pour justement l'exposition coloniale de 1935. Et il a été ensuite plus ou moins laissé de côté. Il a été fermé en 84 et il n'a rouvert qu'en 2006. Donc il y a eu 20 ans d'interruption.
C'est la version qu'on découvre aujourd'hui.
Exactement. Depuis 2006, il est donc organisé autour de 70 bassins, dont un très grand qui fait 3 millions de litres, 3000 mètres cubes, et qui a le grand avantage d'être une grande boîte à chaussures, ce qui permet aux poissons d'y trouver de très très grandes possibilités de planer. Mmh. Et donc on peut avoir une trentaine de requins qui s'y...
Ah oui, quand même. Oui. 30 requins? Ah oui, oui, c'est pas des chaussures, grande boîte à chaussures. C'est incroyable ça, 30 requins. Bon, alors justement, quelques chiffres comme ça pour ceux qui sont jamais allés visiter cet aquarium. Je vous promets que c'est extraordinaire. Donc, Sur combien de mètres carrés
on peut dire qu'il y a, ça fait 6000 mètres carrés en gros, et sur les 6000 mètres carrés, comme dans évidemment chaque aquarium, la partie ouverte au public est environ 3000 mètres carrés.
C'est déjà pas mal. Combien de poissons et invertébrés aujourd'hui? À trois près.
Ah, écoutez, alors à trois près, la semaine dernière, on en a reçu 2000. C'est toujours la question qu'on me pose. En fait, on a reçu un banc de 2000 sardines.
Oh, c'est pas possible.
Et donc, en fait, d'un coup, on est passé largement au-dessus de 10 000 maintenant.
Bon, d'accord. Des requins, vous avez dit qu'il y en avait une trentaine.
Oui, en fait, il y en a plus. Il y en a une cinquantaine, mais une trentaine dans le grand bassin.
Et alors, on va parler tout à l'heure des méduses, du médusarium. Actuellement, on peut en voir combien dans les différents bassins?
Alors, on peut estimer qu'on peut voir en permanence, on est sûr qu'on peut estimer, on peut voir 24 espèces de méduses à l'aquarium. On en a maintenant plus de 50 qui sont maîtrisées, dont la reproduction est maîtrisée. Je vous expliquerai ça si ça vous intéresse.
On a
24 bassins dans lesquels on présente les méduses. Et donc ça fait environ 2 à 3 000 méduses, ça dépend là encore parce que la taille des méduses varie entre chaque espèce.
Ouais. Il y a de tout petit à très grand. Allez, on va commencer la visite dans un instant si vous n'êtes vraiment pas au bout de vos surprises, écoutez bien. Et avant de s'intéresser donc à ce fameux médusarium, grande nouveauté de l'année, on va s'intéresser à l'association Aquarium de Paris, Huguet et les cafards. Vous savez, ce petit héros de dessin animé, de cartoon très célèbre, les enfants l'adorent, star de la chaîne Gulli. Ben finalement, Huguet et les cafards le guide idéal pour plonger dans l'aquarium de Paris. On y va dans 3 minutes.
France Bleu Paris.
Fame, Irène Cara, sur France Bleu Paris.
France Bleu Paris, découverte.
Caresser des carpes, assister à la cantine des requins, découvrir le secret des couleurs du corail, croiser le regard de Claire la sirène, tout ça c'est possible, entre autres à l'Aquarium de Paris, pour découvrir ou redécouvrir ce lieu exceptionnel juste en face, vous savez, de la Tour Eiffel sur la colline du Trocadéro. Aujourd'hui, nous sommes avec le président de l'Aquarium de Paris, Alexis Povilevitch. Et en arrivant, Alexis, à l'Aquarium de Paris, on découvre très vite un personnage de cartoon que les enfants adorent, Oggy, Oggy et les cafards. Alors, quelle est donc cette association? Pourquoi est-ce que Oggy se sent si proche du monde marin, Alexis?
Bah d'abord parce que j'adore Oggy.
Non, ça c'est parce que vous êtes un grand enfant.
Non, mais enfin moi quand j'étais petit, c'était formidable.
Bah, il y a pas longtemps, hein, parce qu'il a que 20 ans. Hein.
Bah oui, voilà, c'était il y a pas longtemps. Ça me rajeunit. L'Aquarium de Paris n'existe que pour faire de la pédagogie à destination des enfants. Et on a l'habitude de dire qu'on veut que les enfants découvrent par surprise et apprennent en s'amusant. Donc, on a une tradition comme ça d'associer nos grands axes thématiques pas avec des personnages de dessins animés. Et Oggy, on est vraiment très content parce que Xylam fait un très, très bon travail. C'est un studio extraordinaire qui porte haut les couleurs de la création française partout, avec toujours quand même derrière une base pédagogique importante. Et donc, c'était très facile d'associer les deux, enfin, Oggy avec nos messages.
Et puisqu'on parle des enfants, visiter cet aquarium, vous diriez que c'est à partir de quel âge, si j'ai des petits-enfants autour de moi?
Alors,
pour suivre notamment les conseils, tout ce que Oggy va nous proposer au fil de la visite.
Voilà, les tout-petits sont fascinés par le monde marin parce qu'ils ne le connaissent pas. C'est quand même à Paris, il y a chez nous et à la Porte Dorée où les enfants peuvent comprendre que les poissons, c'est pas carré avec de la palmure dessus. Hein.
Bon. C'est vrai.
Voilà. Après, dès 5 ans, en fait, il faut d'ailleurs profiter de cette période où les enfants sont petits pour vraiment faire passer les messages fondamentaux. Dès 5 ans, ils sont réceptifs à tous les messages qui sont très lourds. Hein. On leur apprend la chaîne alimentaire, on leur apprend le réchauffement climatique. Évidemment, on simplifie énormément.
Oui.
Mais on est très ambitieux.
Et alors, ça se passe comment? Est-ce que ce sont des panneaux? Est-ce que ce sont des films? Est-ce que Oggy est un personnage qu'on retrouve tout au long de la visite?
Ce sont des méthodes de propagande, tout ce qui est le plus classique. Il y a du Oggy partout. Non. Vraiment, on a plus aucun message pédagogique actuellement sur les écrans, parce que nous avons plus d'écrans que de bassins pour porter le message pédagogique, qui ne soit pas Oggy. Donc en fait, c'est Oggy qui leur apprend, que si les coraux blanchissent, c'est parce que il y a eu une augmentation de la température de l'eau et que la symbiose avec la petite algue zooxanthelle ne se fait plus et donc le corail est en train de mourir. Mais c'est Oggy qui le dit, donc les enfants sont réceptifs. Pareil pour notre spectacle, on a un spectacle où un savant fou a inventé un moyen de transport absolument formidable, mais qui se trouve être très polluant pour la planète parce qu'il faut bien produire l'électricité nécessaire. Et c'est Oggy qui va expliquer aux enfants comment faire pour trouver des énergies renouvelables.
Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que l'aquarium, c'est aussi des salles de spectacle. Il y a une salle de cinéma, une salle de spectacle, des vrais personnages qui vont jouer, qui vont être devant les enfants, assis sur des gradins. Voilà, c'est pas que des bassins, hein, l'aquarium de Paris. Les enfants sont sans doute sensibles à la protection de l'environnement marin. Je me demandais... Qu'est-ce qui les touche, selon vous, le plus, vous qui avez peut-être l'expérience de voir ce qui se passe au quotidien?
Je vois les enfants très souvent. Les enfants sont absolument effrayés de voir avant, après.
C'est-à-dire?
En fait, quand on leur explique qu'à cause de la surpêche, il n'y a plus de poissons dans la mer, ils comprennent et ils se disent « Mais c'était comment avant? Il y avait des poissons ?» Oui. Vous avez le même phénomène avec l'environnement urbain. Mm-hmm. Quand les associations comme le WWF disent « Les enfants ont bien remarqué qu'il n'y avait plus de moineaux. Les enfants ont bien remarqué qu'il n'y avait plus d'insectes dans les villes. » Évidemment, oui, en effet, les enfants sont très, très sensibles à ça. Moi, je les ai vus disparaître, mais c'est curieux. Je me rends compte maintenant qu'il n'y a plus de poissons dans la mer, parce que mais avant il y en avait.
Mais est-ce vous avez l'impression qu'ils emportent ces messages avec eux? C'est fait en sorte que justement ils ramènent à la maison certains messages, et pourquoi pas en faire profiter les parents. Souvent, il y a des scolaires qui viennent, j'imagine.
C'est classique de dire ça, mais les enfants sont le meilleur vecteur d'éducation des parents. C'est d'ailleurs le seul. Ils écoutent beaucoup plus leurs enfants que les médias, les hommes politiques ou même ce qu'ils lisent. Donc, les enfants sont absolument indispensables. Et la sensibilisation des enfants est le vecteur de changement de l'attitude. C'est très, très, très simple d'expliquer à quelqu'un d'arrêter d'acheter du poisson qui ne soit pas labellisé. Nous, nous recommandons MSC parce que c'est de la pêche ou de l'aquaculture durable. On ne peut pas se permettre, tous autant que nous sommes, de ne pas compenser nos émissions carbone quand on prend l'avion. Mmh. Et c'est très simple. Nous, par exemple, Aquarium, on utilise un système mis en place par Air France qui est tout simple. En trois clics, vous dépensez quelques miles de vos programmes et vous avez compensé vos émissions carbone quand vous prenez l'avion. Et c'est-à-dire que Air France va financer la plantation de forêts. Moi, je crois que c'est en Amérique centrale, peu
d'accord,
importe.
Ouais.
Pour la planète, c'est absolument essentiel. Ce genre d'attitude civique doit absolument transcender la société dans une société riche comme la nôtre où c'est possible et facile de le faire.
Je vais vous poser une question toute simple pour tous les parents, les grands-parents qui nous écoutent, qui ont soudainement envie d'emmener les plus jeunes à l'Aquarium de Paris pour profiter de ce circuit avec Oggy, le fameux Oggy et les cafards. Est-ce qu'il faut s'inscrire à l'avance? Est-ce que c'est limité en termes de places par jour? Il y a tout sur Internet, j'imagine.
Non. En fait, l'Aquarium a une capacité. Quand il y a trop de monde, évidemment, on peut plus accueillir de monde. Mais jusque-là, il n'y a pas besoin de réserver. Alors, naturellement, on peut acheter ses billets en ligne.
Oui.
C'est même recommandé parce que ça évite de faire la queue. Mais
bon. Très bien. Donc c'est aquariumdeparis.com tout simplement. Oggy est peut-être la star de l'Aquarium de Paris, mais cette année la concurrence est rude car en face de ce petit personnage de cartoon, il y a toutes ces méduses. Le médusarium, peut-être l'un des plus importants au monde, on va en parler dans un instant dans la suite de France Bleu Paris Découverte avec le président de l'Aquarium de Paris qui reste avec nous et qui, comme vous d'ailleurs, va écouter la chronique quotidienne de Muriel Giordan, c'est Accès Privé. Muriel, comme chaque jour, nous fait découvrir un lieu particulier à Paris, un lieu inédit. Alors aujourd'hui, eh bien, elle continue sa visite des coulisses du Casino de Paris et elle va nous faire admirer, profiter de ce qu'elle a vu en tout cas, elle va nous faire admirer un vitrail bien particulier situé donc au Casino de Paris. On en parle dans un instant.
France Bleu Paris.
Allez leur dire que là je m'en fous, je suis pas d'humeur, je suis pas dans le coup. Moi je veux partir, aller voir ailleurs, je veux voir du pays, sortir de ce trou. Je veux juste faire les 400 coups. Allez viens avec moi, on tente le coup. On n'a rien à perdre, on est jeune et fou, le monde nous tend les bras, d'un point c'est tout.
Un point c'est tout, un point c'est tout, un point c'est tout.
Ça fait longtemps que j'aimerais partir de ce petit village qui m'a vu grandir. Je connais la route, les chemins, le moindre recoin. Y'a plus rien qui me retient, à part mon pote Lucien. On se connaît depuis l'époque, puis le bac à sable. La morvone et les billes cachées dans le cartable. Dans la cour d'école, on les a rendus folles. Je compte même plus le temps passé en hors de colle. Bien sûr que j'ai fait pleurer ma mère, mon père, ma tante et ma grand-mère. Je suis comme je suis, un petit schnappant qui aime bien avoir la tête en l'air. Allez leur dire que là je m'en fous, je suis plus d'humeur, je suis plus dans le coup. Moi je veux partir, aller voir ailleurs, je veux voir du pays, sortir de ce trou. Allez leur dire que là je m'en fous, je suis pas d'humeur, je suis pas dans le coup. Moi je veux partir, aller voir ailleurs, je veux voir du pays, sortir de ce trou. Je veux juste faire les 400 coups. Allez viens avec moi, on tente le coup. On n'a rien à perdre, on est jeune et fou. Le monde nous tend les bras, d'un point c'est tout.
Un point c'est tout, un point c'est tout, un point c'est tout.
On a fait un groupe depuis 2-3 semaines. Avec les copains on aimerait faire quelques scènes. Mais bon pour l'instant y'a rien. On s'entraîne dans le garage, les voisins pour des fous nous prennent. J'ai veux connaître notre style, un mélange de pop, reggae, variété, avec une touche d'hip-hop. Hiver comme été, on est qu'une bande de potes. Et crois-moi c'est sûr qu'on va marquer l'époque. Comprends que je ne veux pas rester planté. Là pour pousser qu'il faut savoir se planter. Pour l'instant je te l'accorde, je n'ai qu'un plan A. Mais qui sait demain j'aurai peut-être un plan B. Allez leur dire que là je m'en fous. Je suis pas d'humeur non, je suis pas dans le coup. Moi je veux juste partir, aller voir ailleurs. Je veux voir du pays, sortir de ce trou. Allez leur dire que là je m'en fous. Je suis pas d'humeur, je suis pas dans le coup. Moi je veux partir, aller voir ailleurs. Je veux voir du pays, sortir de ce trou. Je veux juste faire les 400 coups. Allez viens avec moi, on tente le coup. On n'a rien à perdre, on est jeune et fou. Le monde nous tend les bras, d'un point c'est tout.
Allez leur dire. Allez leur dire,
on n'a rien à perdre, on est jeunes et fous, le monde nous tend les bras, un point c'est tout.
Allez leur dire que là je m'en fous, je suis pas d'humeur, je suis pas dans le goût. Moi je veux partir, aller voir ailleurs, je veux voir du pays, sortir de ce trou. Je veux juste faire les 400 coups. Allez viens avec moi, on tente le coup. On n'a rien à perdre, on est jeune et fou. Le monde nous tend les bras, d'un point c'est tout.
Allez leur dire, Sylvain Arègue sur France Bleu Paris. On retourne dans un instant à l'Aquarium de Paris, mais on fait un petit détour au Casino de Paris.
12h-13h, France Bleu Découverte. Vous ne verrez plus Paris comme avant.
France Bleu. France Bleu présente Tango Passion, un des meilleurs spectacles de tango au monde, de retour en France après 3000 représentations et 5 millions de spectateurs. Samedi 23 mars à 20h30, France Bleu vous invite à une représentation exceptionnelle pour deux personnes à Boulogne à la scène musicale. Pour vous, on sort le grand jeu, le voyage et l'hôtel à Paris pour deux personnes et les meilleures places pour le spectacle. Cette semaine, pour gagner vos deux invitations VIP pour Tango Passion, rendez-vous sur francebleu.fr.
France Bleu Paris.
Les méduses, c'est dans un instant. Mais tout de suite, c'est Muriel Jourdan, accès privé comme tous les jours. On va se déplacer au Casino de Paris. Elle visite les coulisses, Muriel Jourdan, et elle va s'intéresser à un vitrail.
Nous sommes dans l'ascenseur, parce qu'il y a un ascenseur au Casino de Paris.
C'est vrai que c'est paradoxal, mais il y a un ascenseur parce que nous avons été contraints de nous mettre aux normes pour l'accueil et l'accessibilité, donc pour les personnes à mobilité réduite. Donc, comme nous allons aller dans une pièce qui est pour le destiné aux réceptions, aux réceptifs, il fallait qu'elle soit accessible pour les handicapés. Voilà. Et donc on a fait des gros travaux d'accessibilité et on a réussi à les faire sans trahir le lieu et sans l'abîmer. Donc ça, j'en suis assez fier aussi parce que ce n'est pas facile des fois pour rendre un vieux théâtre qui date de 1870 accessible. Vous êtes obligé de faire des...
Pardon, mais là j'ouvre quand même de grands yeux parce que je ne m'attendais pas à ça. Tout d'abord. Ce vitrail.
C'est un hasard total. Mais ce vitrail, il est assez récent. Il doit dater des années 80 parce qu'il a été refait suite à un attentat qui avait eu lieu pendant le spectacle de Serge Gainsbourg. Parce que comme il critiquait beaucoup, je crois, avec sa version de la Marseillaise, il y a des groupuscules d'extrême droite qui avaient décidé de l'embêter. Donc, il y avait eu un attentat. Et donc, il a été refait à cette époque. Et le hasard total fait que la personne qui était architecte à l'époque, parce qu'on a besoin d'un architecte en permanence qui surveille que tout est légal, c'était un grand-oncle à moi. Et donc, c'est lui qui a dessiné ce vitrail, parce qu'il avait aussi des talents de dessinateur. Et le hasard total fait que la personne que vous voyez là sur le vitrail qui tient la contrebasse, c'est la fille, le modèle était ma grand-mère. Donc, c'est vraiment un truc qui a rien à voir avec l'histoire. C'est que du hasard. C'est marrant. Donc,
alors, qu'est-ce qui se passe ici? Qui vient ici?
Historiquement, cet endroit s'appelait quand ça a été créé. Nous sommes derrière la vitrail qu'on peut voir de l'extérieur sur la façade du Casino de Paris. Donc c'est une pièce très éclairée, très lumineuse, et qui à l'origine s'appelait le Perroquet. Le Perroquet, c'était un cabaret qui a été créé par Mistinguette. Je ne peux pas vous dire l'année précise, mais et après la revue, elle venait là animer la soirée. Où on trouve des photos assez hallucinantes. C'était une espèce de, comment dire, c'est un peu comme une grande brasserie avec des banquettes en cuir, une décoration très très années 30. Et voilà, ça s'appelait le Perroquet. Ça s'est arrêté et ça s'est transformé en salle de répétition. Moi, quand je suis arrivé au Casino de Paris dans les années 80, c'était une salle de répétition, donc avec des glaces, des bars, et voilà. Et pendant des années, c'était un lieu de répétition très connu à Paris. Les émissions de télé répétaient beaucoup. Les émissions de Michel Drucker se répétaient ici avec les ballets de Reda dans les années 80. Enfin, il y a eu tout. C'était l'endroit, parce que c'est commode. Vous êtes au cœur du 9e, en plein centre de Paris. C'est lumineux, il y a de la lumière. Voilà. Ensuite, on a voulu, dans les années 80, y créer un restaurant. Et pendant 5-6 ans, ça a été un restaurant qui était très très apprécié, parce qu'effectivement, c'est rare de pouvoir manger au grand jour, parce qu'avec autant de lumière. Et puis ensuite, actuellement, ça sert pour les réceptions.
Donc avec un bar, ce vitrail qu'on ne peut pas rater, il y en a même un autre là. On a une vue plongeante.
Exactement. Alors c'est à l'époque où on a créé le restaurant, on a ouvert donc entre cette pièce et le hall du casino, puisque c'est l'étape suivante. C'était super. J'espère qu'on en refera un restaurant d'ailleurs un jour, parce que c'est compliqué à imaginer, mais c'est vraiment tellement agréable de dîner ici. Voilà. Vous avez une grande cuisine, tout est aux normes pour y faire la restauration. Il y a pas de souci. Voilà.
Lors de votre prochaine visite au Casino de Paris, on ne sait jamais, pour un spectacle, levez les yeux quand vous serez dans le hall d'entrée, vous verrez ça, c'est très très beau. Merci Muriel et à demain.
France Bleu Paris, découverte. Laurent Petit-Guillaume.
Midi 33, si vous nous rejoignez, c'est France Bleu Paris Découverte. Et aujourd'hui, nous sommes dans les fonds marins, en plein cœur de la capitale. Aujourd'hui, on se balade à la rencontre des requins, de mérous, des vieilles coquettes, paraît que c'est un nom de poisson, de saupes, de carpes, de raies, de poissons clowns. Bref, nous sommes à l'aquarium de Paris, sur la colline du Trocadéro, avec son président Alexis Povilovitch. Et la grande nouveauté, Alexis, cette année, enfin la grande nouveauté, oui, je dois dire que c'est vraiment un lieu sur le, qui vous tient à cœur cette année, c'est le Médusarium. Peut-on dire que ce médusarium est l'un des plus importants au monde ?
Ah oui.
Eh ben, on va le dire. Alors, dites-le. Pourquoi il est le plus important ?
En fait, il y a 3 ans, on avait déjà 7 espèces, ce qui est déjà beaucoup, et on a décidé de faire des méduses un axe de développement de nos collections. Donc, on est rentré dans un partenariat très étroit, presque intime, avec un aquarium qui est le numéro 1 au monde, qui se trouve au nord du Japon.
Ah.
Dans une ville qui s'appelle Kamo, dans la préfecture de Yamagata.
Oh là, il faut y aller là, c'est loin. Hein.
Oui, il faut y aller. On y est allé très 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 souvent, on a fait des séjours, les gens qui l'ont fait, je les remercie tous les jours, parce que passer 10 jours en autarcie, en immersion, au nord du Japon, faut le faire. Donc ouais, mes équipes ont été...
C'est quoi par rapport à la cuisine ?
Oh non, ça c'est délicieux. C'est la barrière de la langue hein, et les habitudes de vie.
Mais quel partenariat vous avez fait ? Alors, ils ont une expérience des méduses un peu particulière ?
Ils sont le numéro 1 mondial. Eux, ils ont 75 espèces en présentation et ils nous ont ouvert tous leurs secrets.
D'accord.
Donc, nous sommes l'annexe européenne du plus grand aquarium à méduses au monde.
J'ai entendu 75 espèces de méduses. Donc déjà, il y en a 75, peut-être plus.
Ah non, il y a 1000 espèces de méduses en total.
Ah oui, carrément.
Sur les 1000 espèces de méduses, on peut dire qu'il y en a 500 qui sont clairement décrites. Et après, au Japon, on maîtrise la reproduction de 75. Et chez nous, on maîtrise la reproduction d'une 50aine d'espèces.
Ah quand même.
Nous sommes, si ce n'est pas le 2e, c'est le 3e aquarium pour les méduses au monde. Et nous sommes très clairement le 1er en Europe. C'est un engagement de toutes mes équipes, mais il y a très peu de spécialistes de méduses. Et en France, ils sont à peu près tous concentrés.
Ils sont là.
À l'aquarium.
Trocadéro.
Non, il y a de très belles expositions dans d'autres aquariums, hein, évidemment. Mais avec cette importance, il n'y a pas. La méduse, on l'a choisie parce que d'abord, c'est superbe.
Oui, c'est vrai, c'est très beau. Hein, c'est beau.
On n'a jamais vu.
Ouais.
Je recommande à tout le monde de voir. Les couleurs sont naturelles. Au maximum, on joue un tout petit peu avec la lumière, mais on la colore pas. Hein. C'est juste pour que ce soit encore plus beau. Les formes sont variables. Et puis, c'est un animal absolument fascinant. Et puis, c'est un vecteur de pédagogie unique.
Par quel biais ?
Parce que la méduse prolifère dans les mers à cause des dérèglements et des bouleversements de l'environnement marin.
Et on peut expliquer pourquoi ce bouleversement, rapidement ?
Alors, je fais de la vulgarisation scientifique toute la journée, moi je trouve ça très bien. Non, nous avons dans notre conseil scientifique Jacqueline Goua qui nous aide depuis le début. Jacqueline Goua est une experte de renommée internationale pour les méduses et qui explique qu'il y a une gélification des océans.
D'accord.
Comment est-ce qu'on atteint cette gélification ? Par toute une série de facteurs qui rendent l'environnement marin propice à l'augmentation du nombre de méduses. Je vous donne juste un des schémas qui est tout simple. Quand la température de l'eau monte, il y a plus d'algues. Ces algues, ça s'appelle du phytoplancton. Quand il y a plus de phytoplancton, les zooplanctons, les petits, tout petits animaux, en général les toutes petites crevettes, ça ressemble à ça, ont plus à manger.
D'accord.
Donc ils mangent plus, ils grossissent. Or, il se trouve que le zooplancton, c'est la nourriture des bébés méduses.
Ah, très bien.
Donc les méduses mangent
elles
plus,
ont plus
et donc
manger.
Elles grossissent plus.
Voilà. C'est tout ça.
Rajoutez à ça la surpêche, rajoutez à ça les phénomènes de pollution et vous avez une gélification des océans.
Elles sont de toute taille, hein, les méduses. Il y en a des toutes petites, je crois, chez vous, qu'on peut récolter à la pipette, c'est ça, hein ?
Alors oui. Alors déjà, de toute façon, toutes les méduses commencent petites et puis il y en a qui arrêtent leur croissance et d'autres qui deviennent très grandes. Il faut savoir que la méduse est un animal éphémère. Il ne vit jamais plus de 1 an, exceptionnellement plus de 1 an. Et en fait, on est obligé de prendre les méduses à la pipette. En fait, à vrai dire, chez nous, une méduse, elle est transbahutée au moins 200 fois dans sa vie. Donc au début, c'est avec des pipettes. Après, c'est avec des espèces de petites écuelles et à la fin, c'est avec des petites bassines parce qu'on ne tient pas à se faire piquer. Mais à chaque fois qu'on change l'eau du bassin, on est obligé de prélever, de pêcher la méduse. Alors, il y a des méduses qui font quelques millimètres et d'autres qui font un mètre.
Ah oui, carrément. Et elles piquent toutes ?
Alors oui, alors ça de toute façon... Les méduses, les anémones et les coraux appartiennent à la même famille qui s'appelle les cnidaires. Et les cnidaires, ça vient de cnidé, et donc c'est ortie en grec. Donc d'accord. Toutes les méduses piquent. Alors après, il y a des méduses qui piquent plus ou moins. Et puis après, il y a des humains qui sont plus ou moins sensibles à la piqûre des méduses.
Allez, on va continuer à en parler parce que c'est fascinant, mais c'est fascinant à voir. Donc évidemment, allez à l'Aquarium de Paris, 5 avenue Albert Demain. C'est dans le 16e, métro Iéna Trocadéro, en face de la Tour Eiffel, facile à trouver.
France Bleu Paris. France Bleu.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror. What do you see? Do you see it clearer? Or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all. And you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem. Some people out of love. So Lord heavens above, I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I made mistakes. I'm only human, it's all it takes to put the pain on me. Don't put the blame on me. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Rag & Bone Man, Human, sur France Bleu Paris.
France Bleu. France Bleu présente Pascal Obispo, de retour pour une tournée exceptionnelle dans toute la France.
Salut, c'est Pascal Obispo sur France Bleu.
Pascal Obispo, une nouvelle tournée riche de ses plus grands succès, des titres de son nouvel album et de quelques surprises.
J'ai hâte de vous retrouver en concert dans votre ville.
Pascal Obispo, en tournée dans toute la France et à Paris, les vendredis 22 et samedi 23 novembre au Zénith de Paris-la-Villette. Une tournée France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr.
France Bleu et Notre Temps, le magazine qui vous informe sur votre santé, votre argent, vos droits, mais aussi sur les loisirs et la culture, se retrouve autour du dossier Évasion en France. Tous les mois, Notre Temps invite une personnalité à partager les bons plans et les belles adresses de sa ville. En avril, Liane Folly nous guide à Lyon, la ville de son enfance. Tous les mois, Évasion en France, du magazine Notre Temps, un coup de cœur à retrouver sur France Bleu.
Cette année, c'est décidé, vous voulez changer de boulot. Témoignages, conseils de coach, de DRH et d'actifs qui ont réussi leur reconversion. Venez assister à une soirée exceptionnelle à la Maison de la Radio le 13 mars et échanger directement avec les intervenants. C'est mon boulot, les nouvelles clés pour réussir avec Le Parisien aujourd'hui en France. Mercredi 13 mars à 19h à la Maison de la Radio. Informations et réservations sur maisondelaradio.fr. Un événement France Info.
Avec Dentsu Aegis Network, acteur majeur de la communication et de la transformation digitale des entreprises. Avec Le Bon Coin, l'acteur majeur de l'emploi dans votre région. Rendez-vous sur la rubrique Emploi du Bon Coin.
France Bleu Paris.
France Bleu. L'Aquarium de Paris est à l'honneur aujourd'hui dans France Bleu Paris Découverte. Nous sommes toujours avec son président Alexis Povilovitch. Le Médusarium, j'en parlais tout à l'heure, nous en parlions ensemble, c'est la grande nouveauté de l'année. Je rappelle qu'on peut y découvrir 45 espèces de méduses, elles sont présentées. La mission de l'Aquarium de Paris, vous l'avez dit, c'est aussi d'organiser des événements autour de ce Médusarium. Qu'est-ce qui est prévu autour du Médusarium dans les semaines à venir? Il y a pas mal d'animations, je crois.
On n'arrête pas de faire de la pédagogie. On a notamment un atelier qui est extrêmement célèbre où les enfants et les adultes peuvent toucher les méduses.
Ah oui, carrément?
Oui.
Non, mais toucher, elle pique, vous me l'avez dit tout à l'heure.
Oui, bon, alors, mais des gants quand même, bon, on ne veut pas. Mais il y a des méduses particulières qui, d'ailleurs, on les aime beaucoup à l'aquarium parce qu'elles sont apparues spontanément dans notre grand bassin avant qu'on les récupère. Qui ont besoin de la lumière du soleil pour vivre, donc elles vivent tête renversée. Donc ce sont des méduses qui là peuvent être facilement utilisées pour montrer comment ça fonctionne. Voilà.
Bon, très bien. Est-ce qu'il y a une eau particulière pour les méduses, vraiment différente de tous les autres bassins?
Non. Alors en fait, il y a des méduses partout. Il y a même des méduses en eau douce. Oui, il y a une espèce de méduse qu'on trouve partout dans le globe. En revanche, nous avons tellement d'espèces de méduses qu'en fait, dans chaque bassin, on est obligé de contrôler la salinité, la température et la force du courant aussi. Donc, parfois, les visiteurs demandent pourquoi est-ce que cette méduse bouge peu. Bah, c'est simplement parce qu'elle n'a pas besoin de beaucoup bouger pour grossir. Notre but, c'est que la méduse vive le plus longtemps possible et grossisse le mieux possible.
On parle souvent pour les eaux de lieux de protection, de certaines races en voie d'extinction. Est-ce que c'est le cas aussi à l'Aquarium de Paris?
Ah oui, bien sûr. Alors, nous sommes engagés, dès que nous présentons au public une espèce qui mérite d'être protégée ou qui fait l'objet d'une protection, on travaille avec nos collègues européens, on est membre des circuits, particulièrement pour les requins pointe noire. Il faut savoir qu'à l'Aquarium de Paris, c'est très rare, il y a de la reproduction de requins pointe noire, ce qui nous permet de faire des échanges. Et là, pas plus tard que la semaine dernière, il y a 3 requins pointe noire nés à Paris qui ont été envoyés à l'Aquarium de Brighton. Et en échange, parce que nous faisons des échanges, nous avons reçu 2 requins nourrices de l'aquarium de Londres.
D'accord.
Donc tout ça est organisé au niveau européen. Nous sommes en pointe donc pour les requins pointe noire et le requin zèbre, dont nous assurons aussi la reproduction. Ce qui est très très intéressant, c'est que pour l'instant, il y a de grandes réflexions sur ce qu'on appelle la parthénogenèse, c'est-à-dire la reproduction sans mâle.
Ah.
Et parce que nous, il semblerait bien que nous fassions partie des endroits où on découvre qu'il y a de la parthénogenèse.
Ah, c'est à Paris parce que vous avez des chercheurs également à l'Aquarium de Paris qui font de la vraie recherche autour de ces animaux marins.
Ah oui, nous avons une vraie mission scientifique, en plus de notre mission pédagogique.
Vous parliez tout à l'heure de la mission pédagogique, de la protection de la nature, de l'environnement, du réchauffement climatique, etc. C'est quoi les grands dangers finalement que subit le monde aujourd'hui marin?
Alors, déjà...
Il y a la pêche, la surpêche quand même.
Alors déjà, il y a quelque chose d'encore plus important, c'est l'élévation du niveau de la mer. Le réchauffement climatique, ça entraîne une augmentation de la température de l'eau, et l'augmentation de la température de l'eau, ça fait une augmentation du volume de l'eau. Vous savez, quand vous avez de l'eau qui boue dans la casserole, elle déborde. Et puis après, il y a la fonte des glaces, enfin tout ça n'arrange rien. Donc, tendanciellement, la mer monte. Ça, c'est un enjeu absolument majeur. Après, il y a la déplétion. La déplétion, c'est quand il y a surpêche, il n'y a plus rien dans la mer, enfin, sauf des méduses. Et puis après, il y a toutes les pollutions là, qui sont extrêmement médiatisées en ce moment, heureusement, les avec les plastiques. Voilà.
Ça, c'est un vrai
combat. Ce sont les trois axes majeurs. Enfin, ça occupe. Hein.
Combien de visiteurs l'Aquarium de Paris a reçu l'an dernier à peu
650
000.
Près
en 2018?
Oui.
Bon, bah, on fera plus en 2019. Est-ce que les franciliens, les parisiens, les franciliens connaissent bien l'Aquarium de Paris?
En fait, les franciliens et les parisiens savent qu'il y a un aquarium à Paris parce que l'aquarium est tellement ancien, mais ils ont oublié qu'il avait réouvert. Donc notre travail est depuis 10 ans de réinscrire dans le paysage culturel parisien cette institution.
Dernière question essentielle, je crois. Est-ce que l'aquarium de Paris est toujours un refuge pour les poissons rouges abandonnés? Parce que le petit poisson rouge dans un bocal, finalement, c'est nul. C'est de la maltraitance.
Oui. Ah. Nous sommes le refuge des poissons rouges de toute la région. Il y a deux cas. Il y a les personnes qui sont un peu désemparées parce que leur enfant, par exemple, a gagné une kermesse dans un sac en plastique et qu'on a mis dans un petit bocal. Tout ça, c'est pas bon. Et puis, vous avez aussi les évolutions de la vie qui fait que vous pouvez plus vous occuper de vos poissons. Un poisson rouge doit grandir. Si votre poisson rouge ne grandit pas, c'est qu'il y a un problème. Un poisson rouge doit être dans un bassin avec un cycle complet. Donc, il faut qu'il y ait une pompe. Il faut que vous contrôliez ce qui s'y passe. Il faut qu'il y ait un décor et il faut faire attention à la façon dont votre poisson rouge se comporte. Après, sinon, vous pouvez venir nous l'apporter, on en prendra grand soin, et il sera beaucoup plus heureux, avec plein de congénères.
Il ne sera pas mangé par les méduses, c'est les petites crevettes qu'elles mangent. Les méduses, j'ai retenu ça. Vous leur donnez beaucoup de petites crevettes aux méduses, j'imagine.
C'est une ruine, alors oui, ben, écoutez, c'est très très amusant que vous en parliez. Figurez-vous que la nourriture pour méduses, c'est plus cher au kilo que le caviar.
Franchement, il faut aller vous aider, il faut vraiment y aller. C'est, bon, ben voilà, c'est une vraie expérience à vivre seul, entre amis, en famille. C'est un vrai plongeon dans ce monde, c'est le cas de le dire, qui nous fascine tous depuis toujours, la vie sous-marine, les poissons et tout ce que ça regroupe. En version sous terre, c'est à Paris, bah oui, c'est à l'Aquarium de Paris qui vous ouvre ses portes, je tiens à le dire, tous les jours, de 10h à 19h. Toutes les infos sont à retrouver sur cineaqua.com, c'est bien ça, hein?
Exactement.
Exactement. Et on peut réserver ses billets via ce site internet, c'est même tout à fait recommandé. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup Alexis Povilovitch d'être venu nous en parler aujourd'hui. Merci d'être passé par ici. J'ai une dernière petite question, mais on va la garder pour la page Facebook. Il est question de fête à l'Aquarium de Paris, vous en saurez plus tout à l'heure.
France Bleu Paris. France Bleu.